Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour à toutes et à tous. Faut-il y voir les prémices d'une sortie de la guerre en Syrie? La normalisation, en tout cas, est une réalité depuis deux jours à la frontière avec le Liban. Le dernier point de passage a pu rouvrir vendredi dans l'est libanais, le poste d'Al-Qajoussier qui était fermé depuis 2012 quand des rebelles en avaient pris le contrôle. Le régime al-Assad veut y voir un symbole de sa reprise en main, mais les 30 000 réfugiés syriens installés au Liban ont encore du mal à y croire. C'est ce qu'a constaté à la frontière notre envoyé spécial Nicolas Feldman.
À une dizaine de mètres en face du dernier poste libanais, une pancarte souhaite la bienvenue dans la Syrie d'Assad. À bord de son taxi, Wahib, 52 ans, s'apprête à rentrer dans son pays par ce passage pour la première fois depuis 2012.
J'ai rapporté avec moi un arbre de Noël, des bonbons, du tabac pour le narguilé. Je fais l'aller-retour une fois par mois ou tous les deux mois. Avant, je mettais 6 heures pour aller à Homs en passant par Tripoli. Maintenant, ça ne prend que 2h30 pour rentrer chez moi.
Sur la route, des travailleurs syriens croisent des Libanais. Rares sont ceux pourtant qui s'aventure de l'autre côté de la frontière. Eli Matar, membre de la municipalité libanaise d'Alka.
Une personne ou deux traversent par-ci par-là, alors qu'il y en avait des centaines avant 2011. Avec la guerre, ils ont fermé la frontière. Ça fait des années que personne ne prend ce passage et les gens ont encore peur.
Pour les quelques 30 000 Syriens réfugiés dans cette région du côté libanais, traverser revient à se livrer au régime. Mohamed travaille au Liban depuis 5 ans.
On est content que les gens puissent revenir, mais nous aussi on aimerait rentrer, mais on ne peut pas.
D'autant que la région n'est pas totalement sécurisée. Il y a 12 jours, à une demi-heure de cette frontière, l'explosion d'un bus à Homs tuait 8 personnes.
Nicolas Feldman, au Liban pour France Culture. L'intérieur, la défense, les affaires étrangères, c'est un grand chelem qu'a réalisé l'extrême droite autrichienne qui rentre en force au gouvernement à la faveur de son alliance avec les conservateurs. Le FPE conquiert 6 ministères, dont 3 régaliens, et place son chef de file, Hans Christian Strache, au poste de vice-chancelier. De quoi réjouir d'autres composantes de la droite extrême européenne réunies ce week-end à Prague, autour du populiste et islamophobe néerlandais Geert Wilders et de Marine Le Pen. Il s'agit de définir une stratégie commune en vue des élections européennes dans 2 ans. Alexis Rosenzweig.
Salve d'applaudissements du public tchèque pour ceux qui étaient présentés comme les deux vedettes de cette réunion de l'extrême droite européenne à Prague, la française Marine Le Pen et le néerlandais Geert Wilders. L'hôte du jour était Tomio Okamura, le leader d'origine japonaise du nouveau parti nationaliste tchèque, un parti ouvertement islamophobe. Et de l'islam, il a été beaucoup question dans les interventions des représentants des différents partis, dont la Ligue du Nord italienne et le Vlaamsbelang flamand. Le FPE n'a pas daigné faire le court voyage depuis Vienne, officiellement à cause de son entrée dans le gouvernement autrichien. Contre l'immigration, c'est le socle d'une alliance qui reste sinon très hétéroclite entre des formations qui souhaitent une sortie de leur pays de l'Union européenne ou celles qui préfèrent, comme Marine Le Pen, une réforme des institutions actuelles.
Notre projet de collaboration en Europe se fonde sur l'amour de nos patries respectives et l'attachement à notre civilisation commune. Il procède de notre détermination de voir perdurer pour notre génération et celles qui viennent les valeurs que nous tenons de notre double héritage héléno-chrétien et de notre héritage national.
Héritage héléno-chrétien, une expression jusqu'ici propre à une certaine frange de l'extrême droite et qui laisse peut-être prévoir une nouvelle stratégie de Marine Le Pen en perte de vitesse avant la prochaine échéance électorale de 2019.
En France, les inquiétudes des associations se confirment autour de la future politique de l'exécutif en matière d'immigration. La tendance est au durcissement des conditions d'accueil pour ceux que le gouvernement qualifie de migrants économiques, ceux qui ne peuvent pas prétendre à l'asile ou qui en ont été déboutés. Emmanuel Macron et Gérard Collomb comptent bien accélérer et faciliter les expulsions de personnes en situation irrégulière, doubler également la durée légale de rétention administrative de 45 à 90 jours. Voilà des mesures contenues dans le projet de loi Asile Immigration, transmis au Conseil d'État cette semaine et dévoilé par le journal du dimanche. Toutes ces questions seront au cœur de notre journée spéciale sur l'Europe fracturée face à la crise des migrants. Demain, toute la journée, sur l'antenne de France Culture. Une enquête qui progresse très prudemment à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Les causes de la collision entre un bus scolaire et un TER jeudi restent floues. Hier, la conductrice du bus a pu être entendue par les enquêteurs pour la première fois à l'hôpital. Elle a affirmé que les les barrières du passage à niveau étaient levées quand elle y a engagé son véhicule. Les conducteurs du train disent l'inverse. La catastrophe ferroviaire de Mias, on le rappelle, a tué 5 collégiens. Le pronostic vital reste engagé pour 6 blessés. Lui avait été emprisonné pour un baiser échangé avec sa petite amie à la sortie d'une discothèque en Tunisie. Le français Nessim Wadi, 33 ans, a été libéré hier après 2 mois et demi derrière les barreaux, condamné pour atteinte à la pudeur. Maureen Mercier nous en dit plus depuis Tunis.
La mère de Nessim s'apprêtait à venir en Tunisie pour le soutenir durant les fêtes de Noël. À sa plus grande surprise, elle a appris hier que son fils avait été libéré et qu'il débarquerait chez lui à Marseille dans la foulée. Rappel des faits, l'affaire surnommée du bisou, c'est l'histoire d'un séjour à Tunis qui se transforme en cauchemar. Nessim, 33 ans, passe fin septembre le week-end dans la capitale tunisienne. Lui et son ami sont arrêtés de nuit dans leur voiture à l'arrêt après avoir bu un verre. La police parle d'actes sexuels. Le couple jure qu'il ne faisait que de discuter. La machine s'emballe. Le tribunal condamne Nessim et son ami à plusieurs mois de prison ferme pour, entre autres, atteinte à la pudeur. C'est la parole de la police contre la leur. Je n'ai pas de mots, je ne croirai que mon fils est réellement sorti d'affaire que lorsque je pourrai le serrer dans mes bras. Voilà ce que la mère du jeune homme nous a déclaré par téléphone quelques instants après avoir appris sa libération. L'affaire du bisou a marqué la Tunisie et l'en dit long sur le conservatisme de la police et de l'appareil judiciaire. Une pétition pour libérer le français a récolté plus de 50 000 signatures. L'ami de Nessim, condamné elle aussi, a été libéré à la fin du mois dernier.
Maureen Mercier, une élection déterminante au Chili ce dimanche. Second tour de la présidentielle qui verra le pays ou bien basculer à droite avec Sebastián Piñera ou bien rester sur la ligne socialiste de la sortante Michelle Bachelet avec le candidat Alejandro Guillet. La plateforme Front élargi, positionnée très à gauche, peut jouer le rôle d'arbitre. Née il y a moins d'un an, elle a créé la surprise au premier tour en récoltant 20% des voix. Nous reviendrons sur cette élection dans le journal de 8h. La météo nuageuse sur la plupart de nos régions à l'exception du sud-est. Aujourd'hui, des averses sur les côtes de la Manche et de l'Aquitaine au Jura où il devrait neiger à basse altitude. Côté température de 2 à 7 degrés prévus cet après-midi dans l'intérieur des terres, 7 à 11 sur l'Atlantique et la Méditerranée.